même un continent urinaire. C'est là que nous pouvons voir certains patients qui peuvent uriner dans les habits pendant la crise avec une respiration ample, brillante. Il s'ensuit dans un certain moment des sommeils post-critiques de quelques minutes, 2 à 3 minutes au réveil.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, nous avons ce que nous appelons les crises d'épilepsie qui sont toniques. Elles intéressent surtout les enfants et surviennent au cours du sommeil. Comment reconnaître ces crises? C'est avec des contractures musculaires au début et fin brusque ou progressif. Et elles peuvent être globales, intéressant un groupe musculaire. Et ça, ce sont les crises que nous appelons toniques, que nous retrouvons beaucoup plus chez les enfants. Nous avons les crises chroniques qui se rencontrent surtout chez les enfants. Elles peuvent se caractériser par des chronies généralisées, souvent asymétriques, associées aussi par moments à une perte de connaissance. Nous pouvons avoir les crises atoniques. Ça veut dire, pendant cette crise-là, on a une perte de tonicité musculaire avec altération de la conscience. Et la crise peut intéresser une altération de la conscience. Donc, avec cette crise, on peut avoir une partie du corps ou le corps entier avec une chute, bien sûr, du malade, un malade qui tombe sur les champs. Nous avons ce que nous appelons les crises myoclonique. Les crises myoclonique, ce sont des secousses bilatérales isolées, souvent localisées au membre supérieur, parfois au membre inférieur, entraînant même aussi une chute. Ces crises surviennent souvent pendant la matinée et sont favorisées par la privatisation des sommeils chez certains patients et peuvent s'accompagner aussi d'altérations, bien entendu, de la conscience. Et nous avons ce que nous appelons les crises d'absence. Les crises d'absence, ce sont des suspensions brèves et brutales de la conscience, sans chute, bien sûr. Et c'est là que ça peut arriver chez les enfants. Vous voyez un enfant qui était brillant à l'école, qui faisait des bons pourcentages, toute une fois comme ça, il commence à échouer ou à faire un pourcentage qui n'est pas adapté à son niveau. Alors que c'est un enfant qui peut être là, qui connaît, qui fait donc des crises d'absence, donc qui sont des crises brèves et vitales, presque, bien entendu, l'atteinte de la conscience, mais l'enfant ne tombe pas comme dans d'autres cas, tel que nous l'avons souligné précédemment. Alors l'enfant peut aussi, bien évidemment, arrêter l'activité en cours. C'est comme dire, l'enfant est déconnecté pendant un moment. Et puis après, ça peut prendre 5 à 10 secondes et puis l'enfant reprend ses facultés. Alors ça, c'est ce que nous appelons les crises d'absence. Dans les crises partielles, c'est là que nous retrouvons les crises partielles simples. Les crises partielles simples se caractérisent par l'absence de l'altération de la conscience. Et ici, nous pouvons bien entendu retrouver ce que nous appelons les crises motrices, les crises somatomotrices, qui sont bien entendu des contractions brusques ou toniques, ou tonico-cliniques, tonico-cloniques des sièges. Parmi les crises partielles, il y a ce que nous appelons les crises des bravées jacksoniennes. Elles sont les crises qui se traduisent par la diffusion progressive de la décharge à l'ensemble du cortex moteur. Et cette crise débite à la face et la main ou les pieds puis se tend vers la racine du membre. Donc, ce sont ces crises-là que nous retrouvons dans les crises partielles.
D'accord. Merci beaucoup. On revient vers Chantal. Pierre Kandaya demande si vous constatez toutes ces crises que le docteur Kazad vient de décrire, que faut-il faire?
OK. Par rapport à mon expérience, parce que j'ai souffert de l'épilepsie depuis l'âge de 11 ans et j'ai commencé par des absences. Les absences, c'est-à-dire, se manifestent quand... Par exemple, tu peux être assise, mais tu deviens comme si tu dors et tu n'entends rien de ce qui se passe autour de toi. Et après ça, j'avais développé la crise partielle complexe. Il s'agissait, c'est-à-dire de marcher, par exemple, tu peux être en train de marcher et tu ne sais pas si tu es en train de traverser la route et tu peux être emporté par l'automobile. Et des fois, tu peux, ça aussi, ça fait partie de l'absence. Et des fois, tu peux tomber par terre. Et quand tu tombes par terre, tu fais des mouvements, donc tu commences à mordre ta langue et tu perds, par exemple, la respiration. Tu perds, par exemple, tout l'équilibre du corps, tu commences à bouger. Et en ça, il faut toujours que les gens te donnent d'espace pour que tu te retrouves. Et puis, la mémoire s'efface et tu dois te retrouver. J'ai aussi eu des crises générales, toniques, qui venaient, par exemple, d'un coup. Tu es dans la lecture à l'université, tu te retrouves par terre, tu as déjà fait des mouvements, et puis ça durait plus de 2 minutes. Et à des fois, j'étais emportée par l'ambulance. Je peux dire, c'est mieux que le Seigneur qui m'a guérie, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de crise. J'avais bien pris mes médicaments, la thérapie psychologique et tout ça, et ça marchait.
Donc, en tant que personne qui a souffert de l'épilepsie, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des signes qui annoncent que vous allez avoir une crise, ou ça vient sans prévenir?
Oui, il y a des fois quand tu as l'épilepsie, tu sens comme si tu commences à perdre la conscience, c'est-à-dire que même la façon de respirer, donc tu commences à voir qu'il y a quand même, c'est comme s'il y a une nuage qui vient devant toi. En ce temps, ça peut te prévenir, tu t'assois quelque part, tu attends que ça passe. Et certains, dans 40% ou 60% des cas, ça n'avertit pas, c'est comme la pluie. Il n'y a pas d'avertissement. Donc, c'est pour ça que tu vois que nous nous combattons pour les enfants d'Afrique, parce que toujours, il y a des accidents fatals. La petite fille est, par exemple, à la rivière, elle attrape l'épilepsie, elle est emportée par l'eau. La petite fille, par exemple, est en train de préparer à la cuisine, et elle tombe dans le feu. Et c'est comme ça qu'elle développe aussi encore une autre disabilité. Elle peut perdre la vue, elle peut perdre tous ses cheveux, par exemple, elle peut perdre la main, et c'est comme ça.
Docteur Kazadi, il y a Alphonse Mbouaki qui nous écrit de la RDC, il veut savoir quelles sont les vraies causes de cette maladie.
Parlant de ces causes, de cette pathologie, il faudra savoir que nous avons bien entendu parmi les différentes étiologies de l'épilepsie, nous parlons des étiologies qui sont idiopathiques. Les causes idiopathiques, ce sont les syndromes d'épilepsie qui surviennent chez les sujets qui sont tout à fait normaux, sans lésion cérébrale. Vous voyez, c'est une personne qui n'a pas connu lésion cérébrale, mais qui doit faire l'épilepsie, sans déficit neurologique ou intellectuel, sans même les antécédents significatifs, et en dehors, bien évidemment, même d'antécédents familiaux. Mais il fait l'épilepsie quand même. Et ça, c'est ce que nous appelons l'épilepsie qui a comme cause idiopathique. Et où les épilepsies partielles idiopathiques. Les crises ne sont pas, bien entendu, en rapport avec une lésion cérébrale, mais un foyer, juste un foyer, je voulais dire, et puis l'éthogène fonctionnel est transitoire. Alors, nous avons ce que nous appelons les épilepsies symptomatiques. Ce sont les conséquences des lésions cérébrales variées. Et très souvent, ce que nous voyons, ces lésions peuvent être anciennes, parce que toutefois, il y a aussi les lésions qui sont cicatricielles ou évolutives. Et les types de crises va dépendre de la spécialisation, bien entendu, fonctionnelle de la structure cérébrale atteinte. C'est là que nous pouvons distinguer les épilepsies temporales, les épilepsies frontales, les épilepsies pariétales et consorts. Alors, ceci, c'est parmi les causes. Ça veut dire qu'en dehors des causes idiopathiques, en deuxième position, revient ce que nous appelons les causes symptomatiques. Ça peut être une personne adulte qui n'a pas été en contact avec quoi que ce soit, qui n'a pas d'antécédents familiaux d'épilepsie, mais tout du coup, il développe l'épilepsie. Et c'est ce qui arrive par moment chez les patients qui ont, par exemple, une tumeur cérébrale. Une tumeur cérébrale peut, bien entendu, être une cause de ce que nous appelons les épilepsies qui sont tout à fait symptomatiques. Et nous avons aussi, en troisième position, ce que nous appelons les épilepsies cryopéniques. Et la cause, bien entendu, de ces épilepsies est cachée, donc échappe au moyen actuel d'investigation. Donc, c'est ce que nous appelons que ce sont les types d'épilepsies dont les causes sont, bien entendu, inconnues. Et c'est ce que nous appelons les épilepsies cryopéniques. Donc, ce sont les quelques causes d'épilepsie, nous l'avons dit, bien entendu, que nous avons. Bien évidemment, les causes qui sont idiopathiques. Ça veut dire, si nous venons chez les sujets normaux, qui n'ont pas eu d'antécédents de lésions cérébrales et qui développent tout d'un coup l'épilepsie.
Merci beaucoup. Chantal, est-ce que dans votre famille, il y avait des antécédents de l'épilepsie ou vous étiez la seule personne à en souffrir?
Oui, j'étais la seule personne à en souffrir et la cause de mon épilepsie venait aussi de l'amibiase. Tu vois, en Afrique, il y a le problème de l'hygiène de l'eau, par exemple, quand vous buvez de l'eau qui n'est pas de l'eau bien, tu peux avoir des amibes. Et il y a des fois que les amibes traversent, ils entrent aussi dans le cerveau et c'est ça qui cause la lésion que le docteur venait de parler. Souvent, quand nous mangeons aussi la viande qui n'est pas bien cuite à 100%, comme faire carrément 2 heures au feu, par exemple, ce que les gens appellent en swahili nyamachoma ou les brochettes, les histoires comme ça, les barbecues, tout ça peuvent avoir aussi des amibes, par exemple, et ces amibes sont la cause de l'épilepsie. Ce que j'ai appris aussi par rapport aux recherches que j'avais faites ici en Afrique, j'ai trouvé que la méthode d'accouchement que les Africains utilisaient avant pouvait aussi créer l'épilepsie aux enfants. Par exemple, une mère qui a un problème d'accouchement et de cela, l'enfant fait beaucoup d'heures sans qu'on enlève l'enfant. Et c'est là, l'asphyxie de l'enfant crée maintenant l'encéphalite, là où le cerveau, les neurones du cerveau sont maintenant inflammés. Et en ça, l'enfant développe ce qu'on appelle le spasm syndrome, c'est-à-dire que l'enfant, dans chaque 2 minutes, est en train de bouger. C'est déjà la crise d'épilepsie. Et aussi, ce que nous demandons aux jeunes d'éviter, par exemple, les drogues, prendre, par exemple, les cannabis, les histoires comme, par exemple, des drogues, l'alcoolisme, etc., ça peut aussi créer l'inflammation des neurones et ça aussi, ça peut avoir un effet néfaste. Mais dans les hôpitaux, par exemple en Afrique, vous pouvez voir sur la progression de la santé maternelle, nous pouvons prévenir l'épilepsie de 25% parce que si nous mettons par exemple la césarienne, nous avons par exemple les incubations, donc les couveuses pour les enfants, il y a pour les mamans qui ont des difficultés, des diabétiques, qui accouchent à 7 mois par exemple, nous délivrons l'enfant à temps. Tout cela peut sauver la vie de ces enfants et ces enfants peuvent naître sans ces symptômes-là d'épilepsie et ils peuvent aussi prévenir la maladie à 25%. La part aussi que j'ai trouvée en Afrique à partir de mes recherches, c'est donc les médicaments. Il n'y a pas de médicaments en Afrique et beaucoup de gens sont déprivés de ça.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Alors, Pierre Pondahi et Ghislain Contrôle s'inquiètent de savoir si l'épilepsie est une maladie contagieuse.
Non, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Par contre, ça, c'est un fable créé par nos ancêtres, parce que même à partir de la Bible, tu voyais que les gens disaient que ce sont des possessions démoniaques. Mais l'épilepsie n'est pas contagieuse. Par exemple, sur la culture du Rwanda, il y a des gens qui disent hey, « n'allez pas vers eux ». Par exemple, si elle pète, elle va te contaminer. Si, par exemple, elle crache, elle peut te contaminer. Ces démons peuvent entrer dans l'homme si, par exemple, l'homme couche avec la femme qui a ses séquelles. Et tout ça, ce sont des trucs qui font des exclusions sociales et la stigmatisation est vraiment hautaine, au point où même on essaie de faire du mieux pour les malades, mais c'est difficile à tous ces malades de se retrouver parce que chacun cache sa maladie parce qu'il a peur de les dénoncer. En le dénonçant, il ne peut pas avoir le travail. En le dénonçant, il ne peut pas se marier. En le dénonçant, il ne peut pas être accepté par d'autres comme une personne normale dans la société.
Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont à risque?
Oui, par exemple, ici au Rwanda, vous voyez que le Rwanda venait du génocide. Et le génocide, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont eu, par exemple, des coups de marteau, des coups de ce qu'on appelle la gahini, des histoires avec des clous comme des brèches, par exemple. Et tu vois que ces gens développent l'épilepsie à l'âge adulte. Mais le problème, il faut savoir s'ils ont eu l'orientation facile pour arriver chez le docteur et traiter ça. Et tu vois que la plupart des adultes, ils se suicident, ils ne veulent pas parler de ça. Ils trouvent que c'est une maladie tabou. Certains se déprivent des médicaments et accepter qu'ils sont dans les problèmes de post-traumatique avec les absences d'épilepsie, etc. Mais ce que moi je peux dire, par exemple, l'épilepsie existe parce qu'en Afrique, maintenant, nous couvrons 10 millions de malades. Et sur toute la planète, nous avons 50 millions. Et quand vous voyez la Journée nationale de l'épilepsie, c'est la 2e semaine du mois de février, et on célèbre ce qu'on appelle le Papo Bench. Et le Papo Bench, c'est-à-dire quoi? Nous acceptons que nous sommes malades de ça et nous allons conquérir l'épilepsie à travers les médicaments et nous serons free et nous allons être vraiment dynamiques dans la société, s'intégrer, faire nos études et aussi être des parents. Mais ce que je peux enseigner à l'Afrique, l'épilepsie n'est pas contagieuse et la dame qui est atteinte de l'épilepsie ne peut pas contaminer son enfant.
Okay, merci. Docteur Kazadi, est-ce que vous avez aussi constaté qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions d'avoir l'épilepsie ou de souffrir de l'épilepsie?
Nous avons, comme dans notre région, ici, si nous prenons en RDC, nous pouvons citer un endroit où il y a beaucoup plus long cancer cause. Donc, c'est comme au niveau de Kapolowe, où les gens utilisent les eaux de ruissellement comme bain et comme de l'eau pour utiliser leur, qu'ils utilisent généralement pour la cuisson des aliments. Ils peuvent toutefois ingérer, ils peuvent toutefois digérer ces germes, donc l'oncocercose, et peut toutefois migrer au niveau cérébral et entraîner, bien entendu, cet état des choses, ça veut dire l'épilepsie. Donc, c'est comme ça que vous retrouverez en Afrique, l'épilepsie est concentrée dans une région. Dans une région, ça, ce n'est qu'une entité pouvant, bien entendu, faire qu'il y ait des gens qui sont exposés à pouvoir développer l'épilepsie. Il y a aussi, bien entendu, les gens qui sont exposés aux stimulations lumineuses intermittentes. Ces gens peuvent aussi, bien entendu, développer l'épilepsie. Les gens qui sont dans la privation des sommeils, qui ne reposent pas leur cerveau, ils peuvent très facilement développer l'épilepsie. Parce que là, ça nous ramène, bien entendu, dans la physiopathologie de cette même maladie, qui peut être tout à fait une hyper-excitabilité nerveuse, des cellules nerveuses qui sont des neurones, et ceci peut bien entendu conduire à pouvoir développer la maladie. Et Chantal a souligné en passant les usagers de route, donc avec nos protections sans casque, surtout les motocyclistes, et avec trauma crânio-encéphalique, ce sont les gens qui sont exposés à développer la maladie. Et seulement s'il y a bien entendu un trauma ou un accident avec atteinte au niveau cérébral.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Alors, il y a une question qui revient de façon répétitive, c'est Gesne Ngui, Désiré Ngarti Garingar et Alphonse Mbouaki se demandent si l'épilepsie est héréditaire.
Dans certains cas, il peut y avoir, bien entendu, cet état de choses où on a dans la famille un parent qui a souffert de l'épilepsie et tu peux aussi avoir, bien entendu, cette pathologie. Et cela dans la physiopathologie de la maladie, ça s'explique. Parce que nous avons le principal neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA, qui peut toutefois se lier au récepteur GABA. Et enfin, bien évidemment, et indique aux cellules d'inhiber les signaux de l'ouverture des canaux et laisse entrer les ions qui sont les chlorines et aussi, bien entendu, et inhiber les signaux. Maintenant, les patients qui souffrent, bien évidemment, peuvent aussi avoir cette limitation au cours duquel le récepteur GABA est dysfonctionnaire. Et un patient peut hériter ça de son parent, il peut hériter ça de ses aïeux. Et donc, c'est une maladie qui peut être toutefois héréditaire, ça veut dire qui vient des naïeux et avec bien évidemment l'enfant qui peut naître avec cette mutation tout à fait d'une manière génétique et au cours duquel il peut bien évidemment avoir un dysfonctionnement, par exemple du récepteur GABA qui peut toutefois, qui a été hérité de l'un des membres, de l'un bien évidemment des naïeux ou de ses proches parents.
Ok, Chantal, est-ce que vous avez aussi des exemples des personnes qui ont hérité cette maladie?
Oui, oui, il y a des enfants qui ont hérité ça. J'avais fait aussi des recherches sur ça et j'ai trouvé, par exemple, dans la famille d'une personne, il y a eu, par exemple, la tante qui avait ça ou bien leur grand-mère qui avait ça et puis c'est passé sur les enfants. Mais pour moi, quand je regarde de près, je trouve qu'il y a, il peut y avoir une hérédité parce que vous voyez la façon dont, par exemple, la morphologie de votre crâne, par exemple, la façon dont vos cellules se développent, ça revient. C'est comme le diabète. Il peut y avoir aussi des diabétiques dans ta famille et tu as aussi le diabète. Et j'ai trouvé que c'est correct.
Merci beaucoup.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Nous avons une autre question. Marie, elle dit, si vous avez une personne qui fait des crises d'épilepsie avant l'arrivée à l'hôpital, quels sont les actes qu'il faut poser pour sauver la vie de cette personne?
La première des choses, quand la personne a cette crise, vous devez d'abord lui donner l'espace, ne pas entourer cette personne. Et puis, il faut aussi enlever les gémissements, là, les gens qui commencent à paniquer, à crier, à dire des histoires. Tous ces gens doivent aller de côté et ils doivent attendre. Quand l'enfant commence à faire des crises, c'est-à-dire à bouger, il ne faut même pas toucher cet enfant. Il faut le laisser. Mais quand vous trouvez maintenant que la phase de bouger commence à finir, là, vous repositionnez bien l'enfant de façon où vous le mettez en position couchée, mais vous devez mettre une de ses mains sur la tête de l'enfant pour que ça soit un support. Et vous prenez aussi la jambe qui est de sa droite, vous le repositionnez bien pour que cet enfant respire. Et puis, vous devez prendre, par exemple, la face de la bouche de l'enfant. Vous devez tirer un peu sa tête pour qu'il respire bien. Parce que si sa langue retourne derrière, ça l'étouffe. Donc, vous devez faire en sorte que l'enfant respire. Et dès qu'il se retrouve, il demande où je suis, qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez voir, il regarde les gens, il ne sait pas ce qu'il fait. La part des choses, bien sûr, l'enfant va avoir la migraine. Vous devez donner à l'enfant beaucoup d'eau. Il doit boire de l'eau et s'asseoir quelque part et se reposer. Tant que vous lui demandez des choses, quel est le nom de ton père, qui est ta mère, il ne se rappelle pas, vous devez le laisser dormir. Et puis, quand la mémoire va retourner, il se sent bien, il dit « je peux partir ». Dans ce cas, vous l'accompagnez jusqu'à la maison.
Est-ce que chaque fois que la personne fait une crise, on doit l'emmener à l'hôpital?
Ce n'est pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital. C'est nécessaire d'apprendre les méthodes paramédiques et savoir, par exemple, si la pression de sang est bien, s'il a retrouvé la vision, qu'il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé. Par exemple, il peut se rappeler du nom de son père, où il étudie, le quartier là où il est. Mais si la crise dépasse de plus de 5 minutes, dans ces cas, il faut très vite amener l'enfant à l'hôpital.
Docteur Kazadi, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, justement, il y a, bien entendu, dans certains cas, il y a des mesures qu'il faut prendre sur le terrain parce qu'il ne faut pas que la souffrance cérébrale soit prolongée parce que il peut y avoir bien évidemment des lésions qui sont tout à fait irréversibles. Alors, ce qui fait que quand l'enfant ou un adulte fait l'épilepsie, fait sa crise, tout dépend de la distance. Nous sommes sur le point d'instaurer un système qui doit permettre de donner au moins ce que nous appelons les médicaments de secours. Ce sont les médicaments qui peuvent toutefois être donnés, mais par le membre de la famille, pour relâcher avant de le conduire, bien entendu, à l'hôpital dans les cas extrêmes.
Docteur Kazadi, merci beaucoup.
Okay, merci beaucoup. Merci, David, pour cette opportunité.
D'accord. Merci beaucoup, Chantal.
Merci beaucoup.
Vous venez de suivre notre discussion avec Madame Chantal Kanyabukengo, directrice exécutive de GECO Rwanda, et le docteur Prince Kazadi, neurologue et fondateur de l'Association pour la lutte contre la stigmatisation de l'épilepsie en République démocratique du Congo. C'est aussi la fin de cette émission hebdomadaire de Votre santé, votre avenir. Ce programme était consacré aux causes, aux symptômes et à la transmissibilité de l'épilepsie. Nos invités ont également expliqué les gestes nécessaires pour aider et sauver les épileptiques lorsqu'ils sont en crise. Madame Chantal Kanyabukengo et le docteur Prince Kazadi reviendront dans notre prochaine émission pour la deuxième partie consacrée à l'épilepsie et qui sera structurée autour des traitements et des moyens de prévention de la maladie. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Je suis Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 500.